Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Ça manque pas d'air. Nous sommes ensemble pour une demi-heure pour débattre sur la recherche en éducation avec celles et ceux qui la font. La France est un pays d'immigration. Depuis le milieu du 19e siècle, le pays accueille une immigration venue combler très régulièrement la pénurie de main-d'œuvre dans les secteurs économiques alors en plein essor. Cette tradition a perduré tout le long du XXe siècle avec une diversification des pays de provenance des migrants, même si encore aujourd'hui, une bonne moitié des migrants proviennent des anciennes colonies françaises et des pays européens. Le 3 juillet 1974 constitue une rupture. Arguant de la crise économique, le gouvernement, alors dirigé par Jacques Chirac, prend en effet la décision de suspendre l'immigration de travail légale. Depuis, on s'accommode d'une immigration illégale et les politiques publiques oscillent entre hospitalité et fermeté, la société française comme toutes les sociétés européennes aujourd'hui, entre hostilité et accueil. Qu'en est-il concernant l'école et la scolarité ? D'après l'ADEP, le service statistique du ministère de l'Éducation nationale, la France accueille à peu près 77 000 élèves allophones nouvellement arrivés par an, sur environ 12 millions d'élèves scolarisés. Précision importante, ce chiffre ne recouvre pas les élèves de nationalité étrangère, beaucoup plus nombreux, mais seulement celles et ceux qui, à leur arrivée, ne parlent pas le français ou en tout cas pas suffisamment pour pouvoir suivre une scolarité en français. Ces élèves arrivent, ayant vécu des parcours migratoires parfois traumatisants, l'exil, l'insécurité et la précarité sociale, comme juridique. Comment l'école répond-elle et prend-elle en compte ces situations ? Quels dispositifs d'inclusion met-elle en place ? Et au-delà de l'accueil, comment organise-t-elle l'entrée dans la langue française de scolarisation et dans la scolarité ? Car apprendre le français est une chose, apprendre la langue pour étudier des disciplines scolaires relève d'un autre défi. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux chercheuses qui nous permettront de répondre à ces questions, mais aussi de donner un double éclairage sur la situation française et celle de la Suisse, et en particulier celle du canton de Genève. Et à commencer par Claire Schiff.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Bordeaux et membre du Centre Émile Durkheim. Et vous vous intéressez en particulier à la prise en compte par l'école, comme par les enseignants, des élèves migrants et des formes d'altérité. Et Barbara Fouquet-Choprade, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, maître de conférence dans le groupe Genevois d'analyse des politiques éducatives à l'Université de Genève. Vos travaux de recherche portent particulièrement sur les politiques éducatives, les inégalités scolaires, l'immigration et l'ethnicité comme la ségrégation. Vous avez publié très récemment « École et immigration, comment expliquer les inégalités ethno-raciales » aux éditions « Interroger l'éducation » de l'Université de Genève. Et comme chaque mois, on retrouvera la chronique historique proposée aujourd'hui par Zoé Van Aradl.
Ça manque pas d'air, avec Régis Guyon.
En tout cas, il y a quelque chose qui meurt dans l'exil. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à se dire. Et en travaillant sur cette thématique, j'ai été rencontré plusieurs pères, français, italiens, polonais, maghrébins, africains. Et il y en a un qui m'avait dit une fois, quand il m'avait raconté la douleur de l'exil, les souffrances qu'il a eues, les humiliations parfois, je lui ai dit « Mais pourquoi vous n'avez pas raconté cela à vos enfants ?» Et il m'a dit cette phrase terrible « Je n'ai pas voulu alourdir le cartable de mes enfants avec des pierres. » Et donc, comme si finalement, il y avait une pudeur dans le silence et que les souffrances ne se disaient pas, comme si
on protégeait les enfants.
On les
gardait pour nous et on ne voulait pas
absolument
les donner,
absolument,
les faire porter aux enfants.
Oui, c'est-à-dire ne pas prendre la souffrance comme héritage, et ils n'ont pas fait de leur souffrance une identité. Et donc, il y a quelque chose qui m'émeut beaucoup, c'est cette dignité-là dans la souffrance et dans ce silence.
Alors, vous venez d'entendre la voix de Rachid Benzine au micro de Léa Salamé le 31 août dernier sur France Inter, à propos de son roman qu'il a sorti au Seuil en 23, Le silence des pères. Alors, plusieurs mots peut-être font écho à ce que vous étudiez par ailleurs, hein, autour des publics dont on parle aujourd'hui. Cette histoire du silence, du poids de l'exil. Barbara Fouquet-Choprade, est-ce que ça vous fait écho avec les publics que vous rencontrez ?
c'est vrai qu'on constate un peu la même chose, je pense, en France et en Suisse sur ces questions-là. La question de la transmission, de qu'est-ce qu'on cherche à transmettre dans la migration. Et bien souvent, on va plutôt, enfin, les familles vont essayer plutôt de porter un message positif de la migration, des raisons d'une mobilité sociale ascendante, de trouver un endroit pour travailler, pour aller à l'école, en investissant beaucoup aussi la dimension scolaire, plutôt que d'insister justement à la fois, comme il dit, sur des dimensions un peu traumatiques, mais aussi par exemple sur la question de la discrimination et de comment les familles vont parler des phénomènes de discrimination qu'ils ont rencontrés. Toutes les familles n'en parlent pas et toutes les familles ne transmettent pas effectivement cette histoire-là à leur enfant.
Claire Schiff.
Pour rebondir sur ce qu'a dit Barbara, j'ajouterais une autre dimension à cette dimension de souffrance sur laquelle insiste l'intervenant. Certes, il y a des souffrances dans l'exil, des difficultés, mais moi, ce qui m'avait beaucoup frappé quand j'avais interrogé longuement des adolescents nouvellement arrivés, c'est aussi que l'exil, c'est une ouverture des possibles. C'est aussi un moment où les familles, les jeunes vont se projeter, développer des projets, imaginer des possibilités d'insertion professionnelle qui n'étaient pas possibles dans leur pays. Alors, il y a des désillusions, bien sûr, il y a des obstacles, il y a la discrimination ou d'autres, mais je crois que c'est important aussi d'insister là-dessus parce que ça peut expliquer aussi le rapport qu'ils vont développer à l'école.
De là où ils sont aujourd'hui. Alors, l'objet de notre émission porte sur ces migrants, enfin, et puis ces enfants qui arrivent d'ailleurs, comme on dit aussi. Alors, peut-être un point de définition, migrants, immigrés, allophones. Voilà, tous ces mots semblent être utilisés un peu à l'équivalence. Et pour autant, on ne parle pas des mêmes, en fait, à chaque fois. Alors, Barbara Fouquet-Choprade, quelle distinction peut-on faire ou quelle est la définition qu'on pourrait donner quand on parle de ces publics-là?
Alors, il faut que j'explique d'abord un peu...
Le point de vue suisse.
Alors, tu as bien fait tout à l'heure de dire Genève, parce que la Suisse est un pays fédéral, où chaque canton va fonctionner de façon différente, en particulier sur la question éducative, c'est une prérogative cantonale. Les questions de migration sont une prérogative fédérale, par contre. Donc, les textes en lien avec, par exemple, l'acquisition de la nationalité sont des textes fédéraux, mais ils peuvent s'appliquer de façon un petit peu différente en fonction... des cantons. Maintenant, l'autre chose qu'il faut savoir aussi, c'est que la Suisse relève plutôt du droit du... Enfin, pas plutôt, totalement du droit du sang, ce qui signifie qu'on peut rester étranger sur plusieurs générations. Et c'est ce qui se passe en réalité. Il y a une loi, une votation il y a quelques années qui est passée sur la simplification de l'acquisition de la nationalité suisse pour les troisième générations, qui d'ailleurs a très mal fonctionné et n'a pas permis réellement que les troisième générations acquièrent la nationalité suisse.
De régularisation.
Suisse. Voilà. Donc du coup, quand on a tous en tête, il y a encore un dernier élément à voir, c'est qu'il y a trois langues nationales en Suisse, donc le français, les grandes majorités c'est allemand et puis italien.
Donc du coup, quelque part en Suisse, on peut être allophone d'un canton à l'autre.
Exactement. Et à Genève, on a 47% des élèves qui sont scolarisés dans le système genevois qui sont allophones. Donc, qui ne parlent pas comme langue première le français. Ce qui ne signifie pas qu'ils sont migrants ou étrangers. Par exemple, un tiers de ces élèves allophones sont suisses. Et on a encore 63% de ces élèves qui sont nés à Genève. Donc, ça veut dire qu'ils sont de deuxième ou troisième génération. Pour autant, donc on utilise beaucoup, beaucoup la catégorisation allophone. C'est un des critères, par exemple, pour les établissements pour rentrer dans le réseau d'enseignement prioritaire. Mais il y a aussi, donc, on utilise aussi un autre terme qui est celui de primo-migrant allophone, qui on l'utilise en particulier...
En accolant, du coup, deux catégories.
Exactement, pour les classes d'accueil qui sont censées accueillir les élèves tout nouvellement arrivés allophones.
Ouais, parce qu'en France, c'est vrai qu'on utilise ce vocable de nouvellement arrivés allophones. Donc la situation est un peu différente malgré tout en France, Claire Schiff.
Oui, alors je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de la situation en France qui est sans doute plus connue, mais peut-être...
Même si le droit du sang et le droit du sol est rentré dans le débat public.
Est rentré dans le débat public, mais plutôt pour peut-être rebondir justement sur les termes qui sont utilisés et les formes de catégorisation par l'école. Et c'est vrai qu'il y a eu, on pourrait dire, un changement dans la dénomination, puisqu'on parlait pendant longtemps d'élèves primo-arrivants, d'élèves nouvellement arrivés, et que maintenant on parle d'élèves allophones nouvellement arrivés. Alors je dirais que c'est à la fois un changement au niveau, on va dire, symbolique, qui peut paraître important, parce que finalement c'est une façon de peut-être de valoriser ou de d'utiliser une dénomination qui met en avant ce avec quoi arrivent ces élèves, hein, et ce qu'ils savent, ils maîtrisent une, deux, voire parfois trois langues. Mais en même temps, je crois que ça n'a pas changé fondamentalement les types d'élèves qui sont accueillis dans ces dispositifs et qui sont visés par les différents dispositifs, parce que on trouve tout de même des élèves qui maîtrisent partiellement le français mais qui sont nouvellement arrivés. Il peut y avoir aussi des élèves qui sont allophones, chez eux ils parlent une autre langue, mais qui ne sont plus catégorisés comme visés par ces dispositifs, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont limités, vraiment très limités dans le temps.
Les dispositifs.
Voilà, les dispositifs. Donc la catégorisation, ça dépend à quel moment, qui est-ce qu'on nomme à quel moment. Hein. Et les dispositifs, ils sont très limités dans le temps. Alors que l'effet de la migration, le fait d'être allophone, c'est quelque chose qui peut affecter différemment les élèves sur un temps très long.
Y compris dans la vie adulte, voilà. Ensuite. Alors, j'avais juste une question aussi par rapport à votre travail scientifique, à vos recherches. Comment travaillez-vous cette question-là ? Vous vous intéressez plus, Claire Schiff, à la question du rôle ou la place des enseignants peuvent jouer dans cet accueil et dans la perception qu'ils ont de ces publics-là. Comment vous travaillez cette question de l'accueil, de la scolarité, de la scolarisation des élèves allophones ?
Alors, dans mes travaux, qui remontent un petit peu, mais j'ai beaucoup été dans les établissements, je ne regarde pas seulement le point de vue des enseignants. Je dirais que j'essaye de croiser vraiment les points de vue. Et notamment de aussi suivre des jeunes sur un temps un peu plus long. Parce que souvent, en fait, je dirais que la caractéristique aussi de ces élèves, c'est d'être dans des situations de changement souvent assez rapides. Et beaucoup d'enquêtes sur les difficultés d'intégration de façon générale vont regarder un instant T, quels sont les résultats des élèves, quelle est leur situation.
Pas attendre sur la trajectoire.
Sur la trajectoire. Or, les choses changent très vite. Très vite ou moins vite, selon les élèves, mais néanmoins. Et donc, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de rencontrer et de discuter avec des élèves un an après leur arrivée, deux ans, trois ans, de les voir à différents moments pour voir finalement comment évoluait leur rapport à l'école et d'aller, d'une part, dans les classes spécifiques ou les unités, maintenant, comme on les appelle, spécifiques pour ces élèves, et de voir ensuite ce qui se passe quand ils en sortent. Et quand ils sont intégrés dans des classes ordinaires. Et
finalement, qui sortent de cette catégorie.
Voilà, parce qu'il y a des enseignants qui sont spécialisés et des enseignants ordinaires qui ont à prendre en charge ces élèves. Et c'est intéressant de voir ce qui peut se passer selon les moments.
Barbara Fouquet-Chaupat, vous vous intéressez plus aux politiques publiques et aux questions de ségrégation aussi. Et comment cette question-là, en faisant ce livre aussi sur école et immigration, comment vous êtes arrivée à cette question-là et comment ça s'intègre par rapport à vos travaux précédents sur la ségrégation ?
Alors, j'ai d'abord travaillé avec Claire, il y a longtemps, effectivement, sur les classes d'accueil. Et donc là, on s'intéressait, enfin moi, j'avais une approche où vraiment on a essayé ensemble, hein, c'est un des pans des travaux de Claire, où on essayait vraiment de faire des suivis de cohorts, de voir ce que devenaient ces élèves quand ils passaient dans ces structures, etc. Et puis après, j'ai fait ma thèse, j'ai travaillé en particulier sur la question de la ségrégation, déjà, dans le cadre de ma thèse. Et là, j'ai un peu, on va dire, élargi la focale, je travaillais de façon, on va dire, générale, alors encore un nouveau terme, mais je travaillais plus sur les élèves issus de l'immigration. Et j'avais en particulier un regard particulier sur les élèves de seconde génération dans les établissements les plus ségrégés de Seine-Saint-Denis et de Bordeaux. Et là, je me suis essentiellement intéressée aux élèves que j'ai interrogés donc, par questionnaire, 1300 questionnaires, donc j'avais quand même une bonne base de données. Et là, vraiment, j'essayais plutôt de regarder ce qu'il en était, de leur ethnicité, de la façon dont ils se voient, de ce que ça produit en termes de, à la fois de protection de son identité et aussi d'empêchement scolaire parfois. Et pour ça, j'avais créé ce que j'appelais le score ethnique, qui justement avait pour projet de dépasser la catégorisation. C'est-à-dire, je ne parlais pas d'élèves de première, seconde, troisième génération. À partir de scores ethniques, j'essayais de positionner plutôt les élèves sur un continuum où les élèves cumulaient plus ou moins d'attributs étrangers, on va dire. Donc, pour aussi éviter de retomber dans de la catégorisation et voir, en fonction de là où se positionnaient les élèves sur ce continuum, ce que ça produisait en termes de rapport à soi, de rapport à l'école.
Je propose qu'on enchaîne avec la chronique de Zoé Van Aert, où on va faire un détour historique, forcément, puisque c'est le principe de cette chronique, pour reposer peut-être quelques éléments clés sur cette question de la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés, donc.
Oui, alors en 2023, la France accueillit plus de 500 000 réfugiés et 142 500 demandeurs d'asile, ce qui représente une moyenne de 10 personnes immigrées pour 1000 habitants français. Environ 77 000 élèves allophones sont scolarisés chaque année, ce qui concerne 9 300 établissements publics. La prise en charge de ces élèves est un enjeu qui concerne donc l'ensemble du territoire et dont le cadre juridique a dû s'adapter avec l'évolution sociologique et économique de la société. Or, les élèves allophones n'ont pas toujours été désignés comme allophones, ils n'ont donc pas toujours été l'objet d'une prise en compte particulière. Mais ils ont toujours été considérés comme des élèves au regard du droit concerné par l'article L131-1 du Code de l'éducation qui dispose que l'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre 6 et 16 ans. Cet article a été codifié selon une loi adoptée en 1882 qui donne à l'école son caractère universel et c'est le point de départ d'une obligation juridique de prendre en compte les élèves étrangers, non francophones, dans l'école française. La fin du 19e siècle et le début du 20e marquent une ère où les populations étrangères, majoritairement italiennes, portugaises et espagnoles, sont perçues comme transitoires en France. Les frontières du pays sont ouvertes et les migrants sont généralement en France pour des périodes provisoires. Cette ouverture est le signe d'un besoin fort de main-d'œuvre, autant dans les usines que dans les champs. Cette présence, considérée à tort ou à raison comme transitoire, n'amène pas de mesures particulières pour les enfants, sauf à déléguer cette question au pays d'origine. Et en effet, en 1925, des cours de langue vivante et de culture d'origine sont introduits, proposés aux élèves issus de l'immigration. C'est l'émergence des enseignements langue et culture d'origine, les ELCO, qui doivent permettre à la fois aux élèves de mieux s'insérer dans l'école, mais aussi conduire à conserver des racines, en maintenant des liens avec la culture d'origine, dans l'idée de préserver la possibilité d'un retour au pays. Les ELCO sont financés par les ambassades ou les consulats, et ils sont régulés par des accords bilatéraux entre les pays, indépendamment de l'institution de l'école et de l'éducation nationale. La mise en place de ces cours dans le pays a ensuite été précisée par les circulaires de 1939 et 1976, mais ce cadre réglementaire est critiqué. Il est jugé sur sa volonté de maintenir l'illusion, de plus en plus évidente, du retour des familles immigrées dans leur pays d'origine. Parce que la fin des années 1970 est marquée par la fin des Trente Glorieuses, où la France durcit sa politique migratoire en réaction à la crise économique et au choc pétrolier de 1973. Elle ferme ses frontières à l'immigration du travail en 1976, et les migrants, qui choisissent de rester en France, peuvent alors faire venir leur famille par le biais du regroupement familial. Désormais, l'immigré n'est plus seulement une main-d'œuvre passagère liée à un contrat de travail. L'existence d'une population étrangère qui s'installe durablement en France, qui forme une famille et qui devient français par le droit du sol, transforme le regard des Français et de l'État sur cette population. Et cette transformation démographique fait ressurgir violence et racisme. Avec les années 1980, la France entre dans une nouvelle ère avec l'apparition d'une réflexion autour de l'intégration et non plus seulement sur l'immigration en tant que telle. C'est une politique qui suit une logique de maîtrise des flux migratoires. Et l'école est désormais désignée comme l'instrument clé de l'intégration des migrants et de leurs familles et de leur accès à la nationalité, à la citoyenneté et à la langue française. La Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée par les Nations unies et ratifiée par la France en 1989, vient renforcer l'éducation, qu'elle érige comme un droit pour tous, qu'importe la nationalité ou la situation de l'individu. En France, il faut encore attendre 2002 pour qu'une circulaire mette en place des classes spéciales pour l'accueil des élèves de nationalité étrangère. Elle affirme que l'école est un lieu déterminant pour l'intégration sociale, culturelle et à terme professionnelle des enfants et des adolescents nouvellement arrivés en France. Les classes d'initiation, les CLIN pour les élèves d'école élémentaire et les classes d'accueil, les CLA, pour les élèves du second degré sont mises en place. Elles sont implantées dans les écoles pour répondre à des besoins constatés. Mais ces classes suivent simultanément une politique différentialiste par le caractère fermé de ces dispositifs, et cet aspect va être critiqué. 10 ans plus tard, en 2012, une nouvelle circulaire a été adoptée. Elle donne lieu à un changement de paradigme où le principe d'intégration laisse place à celui d'inclusion. On lit alors dans cette circulaire, l'inclusion dans les classes ordinaires constitue la modalité principale de scolarisation. L'école doit ainsi être vécue comme un lieu de socialisation et de sécurité par ses enfants. Les CLIN et les CLA sont ainsi remplacés par des unités pédagogiques pour élèves allophones nouvellement arrivés, ce sont les UPE2A. C'est à ce moment que les élèves immigrés ne sont plus désignés négativement comme non francophones, mais justement comme allophones. Ils ne sont plus des élèves à besoins liés à leurs lacunes en français, mais des élèves dotés de capacités et de qualités liées à une autre culture et la pratique d'une autre langue. Mais force est de constater que la théorie et les visées inclusives se heurtent à la complexité de sa mise en pratique, liée aux impératifs pragmatiques des enseignants, au manque de moyens, et parallèlement, à l'évolution des politiques migratoires qui, depuis 20 ans, évoluent vers plus de défiance et de dureté. Et en dépit d'un cadrage national, les aménagements spécifiques pour la scolarisation de ces élèves demeurent variables en termes de moyens, de formation et d'application des recommandations. On retiendra également que le dispositif d'accueil des élèves allophones nouvellement arrivés s'est uniquement construit par des circulaires et qu'aucun texte réglementaire ni législatif n'est venu traiter cette question.
Merci beaucoup. Alors, peut-être première question, Barbara Fouquet-Choprade, par rapport à cette histoire franco-française qu'on vient de suivre là sur un bon siècle. Est-ce que la Suisse a une histoire un peu à l'identique, qui va construire petit à petit des réponses à ces situations pédagogiques et à ces élèves arrivants? Ou est-ce qu'on est sur une autre histoire et un autre contexte?
Alors, la Suisse, je ne sais pas, Genève.
le canton de Genève.
Voilà, le canton de Genève. Non, alors, de façon générale, ce qui est intéressant de voir dans le canton de Genève, c'est qu'on suit toujours plus ou moins la situation française. On le voit sur la question qui nous occupe aujourd'hui, mais on le voit aussi, par exemple, sur l'éducation prioritaire. Donc, les calendriers sont toujours quand même assez proches. Donc, effectivement, le moment où, par exemple, la Suisse et Genève en particulier sont touchés par les chocs pétroliers, ça va se faire un tout petit peu plus tard par rapport aux autres pays européens, mais enfin, quand même, ça arrive. C'est aussi un moment où on va limiter l'entrée des travailleurs étrangers, mais surtout, où on va renvoyer les travailleurs étrangers, puisqu'ils étaient encore, pour beaucoup, avec des contrats de travail très précaires. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est une période, cette période-là des chocs pétroliers, qui suit une période, et ça peut-être c'est un petit peu différent par rapport à la France, qui suit une période quand même assez forte de montée de la xénophobie. Et donc, du coup, au moment des chocs pétroliers, il y a vraiment une volonté très forte de limiter très très fortement l'immigration, de ne plus donner de permis de travail, avec la volonté d'absorber les chocs pétroliers, avec cette variable d'ajustement, hein, comme dit le chercheur qui est connu, qui s'appelle Piguet, qui travaille là-dessus, qui dit, ça a été la variable d'ajustement pour absorber les effets des chocs pétroliers. Sur les structures d'accueil, c'est quasiment la même histoire, on va dire que c'est quasiment la même histoire, sauf que dans un temps récent, il n'y a pas eu de changement de dénomination, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle toujours de classe d'accueil, pour élèves primo-migrants allophones. Voilà. Mais le reste suit vraiment beaucoup la même histoire que la France.
Alors Claire Schiff, parce que vous connaissez bien la situation française, là, pour le coup, quelle réflexion cette chronique évoque pour vous, avec ces différents temps de bascule, les années 70 d'abord, et puis, on va dire, il y a une dizaine d'années, avec cette entrée dans l'ère de l'inclusion, et de ce nouveau paradigme, comme Zoé le signalait tout à l'heure, est-ce que ça vous amène une réflexion, une réaction?
Alors moi, j'aurais tendance à nuancer l'idée de changements importants, fondamentaux, et de révolution dans tout ça, pour insister quand même sur une certaine continuité. Et ça, de façon générale, ce qui caractérise la France, et là, je ne parle pas seulement des enfants, mais c'est une continuité dans l'immigration, finalement, contrairement à certains autres pays voisins, comme l'Espagne ou l'Allemagne, la France connaît une immigration continue, mais relativement limitée. Il n'y a pas eu de pic et de montée d'un coup, pour des raisons diverses et variées, du nombre d'immigrations. Il y a une croissance dans les effectifs des élèves nouvellement arrivés, en particulier, mais c'est vrai pour l'immigration générale, progressive. Donc je dirais, alors certes, elle s'est transformée, comme vous avez dit, elle est devenue plutôt une immigration familiale et très estudiantine aussi, Donc la question en fait de l'arrivée d'élèves étrangers, migrants, elle se pose pas qu'à l'école primaire, secondaire, elle se pose aussi à l'université. Et je dirais aussi ces changements dans les circulaires, les façons de nommer ces élèves, finalement ne s'accompagnent pas, à mon sens, de changements fondamentaux dans la façon dont ils sont pris en charge et accueillis à l'école française. C'est pas parce qu'on appelle ces élèves des élèves allophones qu'on fait une place importante dans le système scolaire français aux langues que parlent ces élèves.
La seule peut-être distinction, c'est que passer d'un dispositif CLIMCLA fermé, ou en tout cas en partie fermé, à quelque chose de plus, ou la volonté de les intégrer, ou en tout cas de donner une place plus légitime dans la classe, avec les guillemets ordinaires, dites ordinaires, c'était quand même quelque chose qui était poussé à ce moment-là. Alors, effectivement, peut-être que concrètement, dans le quotidien, c'est peut-être pas aussi facile que ça et si évident que ça, mais peut-être qu'on pourrait y revenir tout à l'heure.
C'est surtout assez variable, à mon sens. C'est effectivement, maintenant, avec cette obligation d'inscrire les élèves dans une classe ordinaire, ils sont pris en compte dans les effectifs des classes ordinaires, ils ont leur place, en principe, et ils doivent pouvoir y aller partiellement, de façon plus importante, dans la progression de leur connaissance du français et autres. Sur le terrain, il me semble que les choses fonctionnent assez différemment selon les lieux, selon les établissements, sans doute selon les académies, selon le nombre d'élèves aussi, selon sans doute leur profil aussi. Donc c'est assez variable. Il y a souvent un écart quand même entre les préconisations et la réalité.
Barbara, vous quelque chose près ?
Oui, je voudrais juste compléter. C'est vrai qu'on constate aussi une grande continuité dans les politiques publiques à Genève. Et effectivement, on est aussi entré dans l'ère de l'inclusion avec la précédente chef de département qui a porté ce projet-là. Donc on voit bien au niveau de la loi, par exemple la loi sur l'instruction publique a intégré la dimension de l'inclusion en y intégrant en fait des choses qui étaient disparates. Par exemple, sur l'inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers, qui était une loi en tant que telle avant, elle entre dans la LIP. Mais dans les faits, il n'y a pas de révolution. Voilà, il peut effectivement localement y avoir... Alors, comme on est à l'ère des dispositifs, on a des nouveaux dispositifs qui sont montés à droite, à gauche. Mais quand on regarde dans les grandes masses de la structure du système éducatif, il n'y a pas de grand changement non plus de notre côté.
Je voulais juste revenir sur un point que Rachid Benzine évoque sans vraiment l'évoquer, mais dans son roman, il en parle sur l'attente que les familles aussi peuvent avoir vis-à-vis de l'école, la confiance qu'ils peuvent avoir dans l'école. Quelle est peut-être l'originalité ou quand même la spécificité de ces publics-là qui arrivent d'un autre contexte, alors plus ou moins en guerre, plus ou moins en crise, etc. Mais qui arrive avec des attentes peut-être parfois extrêmement fortes vis-à-vis de l'institution scolaire. Claire Schiff ?
Oui, alors il y a beaucoup de travaux, notamment en France, des travaux qui datent du milieu des années 90, hein, qui ont analysé cette question et d'autres, et qui ont montré que, par exemple, les ambitions des parents migrants en termes de poursuite d'études de leurs enfants sont globalement plus élevée à catégorie socio-professionnelle équivalente que celle des parents natifs. Et ça a pu être observé dans d'autres pays aussi, aux États-Unis. Donc il y a effectivement un investissement et un espoir qui peut être placé dans l'école. Après, je voudrais là, parce qu'on était sur les questions de continuité et de changement, ce qui a quand même changé dans la composition de l'immigration en France, même s'il y a une continuité en termes de... relative continuité en termes de chiffres, d'origine, ça évolue. Mais ce qui a vraiment changé fondamentalement, c'est l'élévation très importante du niveau scolaire des migrants depuis les milieux des années 90. Et donc, les migrants sont très diversifiés, ils ont des profils très diversifiés, mais globalement, on va avoir aujourd'hui beaucoup plus de parents qui ont eux-mêmes été...
Qui
ont fait des études. On a encore une catégorie de parents, notamment dans certains courants, chez les Turcs par exemple, même chez les Portugais un peu moins, mais moins diplômés, une immigration moins diplômée. Alors, je n'ai pas enquêté récemment sur l'effet de ça, mais je pense que ça peut aussi avoir un effet sur le rapport
aux institutions et aux attentes vis-à-vis de l'école.
Ouais.
Est-ce que Barbara Fouquet-Chopin, vous analysez un peu de la même manière ce rapport et cette attente forte vis-à-vis de l'école et de la scolarité?
On note de la même façon une grande confiance en général dans l'institution scolaire. Et j'ai travaillé par exemple, alors je vais faire un petit pas de côté, mais j'ai analysé un dispositif qui s'appelle l'école des mamans et qui vise à donner des cours de français aux mères allophones, en général nouvellement arrivées, en situation de précarité, pour des mères dont l'enfant ou un enfant va être prochainement scolarisé. Donc on a analysé ça, et en fait ce qui était intéressant, c'était aussi de voir à quel point elles étaient très confiantes dans cette institution scolaire, alors même que le dispositif avait quand même tendance à les enfermer dans des identités très réifiées, etc. Et donc on voyait bien qu'elles étaient extrêmement reconnaissantes de façon générale de ce que pouvait leur permettre de faire l'institution scolaire. Mais une spécificité de Genève, encore une, c'est que, vous le savez, on a les grandes institutions internationales. Donc, aussi une partie de ces primo-migrants allophones, très fortement diplômés. Et en plus, les institutions internationales paient les écoles privées des enfants de leurs collaborateurs. Ce qui fait qu'on a un tiers des élèves allophones qui arrivent sur le territoire genevois, qui partent directement dans les écoles privées, sachant que ces écoles privées coûtent en moyenne entre 5 000 et 20 000 francs suisses par an. Donc c'est très élevé, ça n'est pas du tout subventionné par l'État. Et ça en dit aussi beaucoup sur le rapport quand même à l'institution, d'une part. Bon, ça en dit aussi beaucoup sur le type de migration, parce que souvent, oui, ce sont des gens qui ne sont pas là de façon continue,
voilà,
qui vont repartir.
Ces enfants-là repartent aussi avec leurs parents ils changent d'institution internationale.
Oui, exactement, exactement.
Une question aussi porte sur peut-être une catégorie qui occupe une place. On parle des diplômés, mais on parle aussi des élèves non scolarisés antérieurement. On parle des MNA aussi, les mineurs non accompagnés, donc qui sont peut-être tout à l'inverse de ceux qu'on vient de citer pour les enfants de diplomates. Voilà, c'est peut-être aussi des catégories qui n'existaient peut-être pas tellement de cette manière-là il y a 10 ans ou il y a 15 ans, Claire Schiff.
Oui, alors d'une part, il y a effectivement la croissance de ce phénomène-là, de migration de mineurs isolés. Et d'autre part, ce qu'il y a aussi, c'est la question de la prise en charge d'élèves nouvellement arrivés en lycée. Parce que ça, il faut dire que ça, tout à l'heure je disais qu'il y avait une relative continuité, je crois que c'est quand même un point d'amélioration à souligner depuis un certain nombre d'années. On a créé des UPEDESA en lycée. Souvent, il n'y en avait pas du tout. Bon, très souvent, elles sont implantées dans des lycées plutôt professionnels. Et ce sont des dispositifs qui vont accueillir ces élèves-là, qui parfois se retrouvent aussi dans les dispositifs pour les élèves non scolarisés antérieurement. Mais là, il faut quand même souligner aussi quelque chose qui a été souligné récemment par un rapport de la Cour des comptes. C'est qu'il y a un assez grand décalage entre le nombre de mineurs non accompagnés et le nombre d'élèves de 16 à 18 ans scolarisés. Donc il y a vraisemblablement une partie importante, peut-être presque la moitié, de ces jeunes-là qui ne sont pas pris en charge et ne sont pas scolarisés.
Sachant que l'école, la scolarisation, ça a été dit dans la chronique, l'obligation est à 16 ans, jusqu'à 16 ans.
Et même plus, depuis 2019, il y a une obligation de formation jusqu'à 18 ans pour ceux qui ne seraient pas en emploi. Donc, on a là effectivement un problème de vide, en fait, pour ces jeunes-là.
Alors, l'autre question qui est le pendant, c'est la sortie du dispositif, parce que voilà, on parle de la mise en place de dispositifs de soutien et d'apprentissage de la langue et de cette acculturation à la langue de scolarité. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ces dispositifs? Alors, sans parler d'évaluation ou de performance, mais qu'est-ce qu'on sait de de ce qu'ils apportent au regard, et on l'évoquera ensuite, mais du parcours scolaire qui suit derrière. Et peut-être, on ne peut pas en dire grand-chose. Je pose la question de façon très ouverte. Barbara Fouquet-Champagne.
On n'en sait pas grand-chose réellement, puisqu'en fait, on manque de données. On manque de suivi de cohorte. En fait, ce qu'on appelle un suivi de cohorte, c'est-à-dire qu'on va prendre les élèves, par exemple, qui sont passés dans les classes d'accueil, et puis qu'on va les suivre pendant X années pour voir ce qu'ils deviennent. Alors, on a des mesures ponctuelles. Nous, avec Claire, il y a longtemps, on avait fait ça.
Il y a combien ?
La cohorte concernait des élèves qui étaient rentrés en classe d'accueil en collège en 1996-97, qu'on avait suivi jusqu'à l'entrée au lycée sur trois grosses académies. Donc c'était quand même un suivi de cohorte conséquent.
Et donc pour voir ce qui 25 ans.
Voilà.
Mais les élèves en question étaient scolarisés il y a un quart de siècle.
Exactement. Bon, voilà, on avait pu faire ça, mais il y a peu d'expériences comme ça. Mm-hmm. Juste pour revenir à la question précédente, d'ailleurs, on avait montré, dans le cadre de ce travail-là, qu'il y avait aussi, à l'approche des 16 ans, déjà des phénomènes de déscolarisation. Il y a aussi ce phénomène-là. Sur le canton de Genève, on trouve aussi quelques suivis de cohortes qui sont menés par le SRED, qui est l'équivalent de l'ADEP en France, au niveau local, et qui arrive à peu près au même résultat qu'on connaît, hein, donc avec des surorientations dans le spécialisé, avec, donc, dans le cas genevois et suisse en général, on a un secondaire 1, donc l'équivalent du collège, qui est un secondaire 1 filiarisé, ce qui veut dire qu'on n'a pas de tronc commun et les élèves sont orientés dans des filières.
Dès l'âge de 12 ans.
Dès l'âge de 12 ans, sur la base des résultats scolaires à l'équivalent du CM2, les élèves sont orientés dans une des trois filières. Et donc les filières sont hiérarchisées de la filière aux compétences de base à la filière aux compétences les plus étendues. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a une surorientation de ces élèves dans les filières les plus basses et aussi une tendance à une déscolarisation plus rapide avec une espérance scolaire réduite. Mais ce qu'on doit dire quand même de façon générale, c'est qu'on aurait vraiment besoin, même d'un point de vue un peu plus expérimental, de pouvoir mener des grandes recherches d'envergure, quantitatives, avec des vrais suivis de cohortes, y compris éventuellement, dans un monde idéal, dans une comparaison internationale, parce qu'on a des situations tellement différentes d'un pays à l'autre, mais qui parfois pourraient permettre de faire un peu de l'expérimental, dans le sens où on a aussi des pays où il n'y a pas de classe d'accueil. Par exemple, qu'est-ce que ça fait de ne pas avoir de classe d'accueil sur le long terme ? Mmh. Et aujourd'hui, je crois qu'on n'est pas capable de répondre complètement à toutes ces questions-là.
Et peut-être la difficulté de ce suivi, c'est qu'un élève qui arrive de l'âge maternel ou préscolaire, et un élève qui arrive en fin de collège ou un élève qui arrive à 15-16 ans, c'est pas non plus la même histoire. Avec les premiers, on peut faire l'hypothèse qu'ils vont disparaître tout simplement d'une visibilité parce qu'ils n'apparaîtront plus nulle part dans aucune catégorie. Quand ils vont arriver au collège, leur passé scolaire allophone ne sera peut-être pas conscientisé, en tout cas par les acteurs.
Alors, l'une des choses qu'on avait montré dans ce suivi de cohorte, c'était l'importance de l'âge à l'arrivée. Clairement, il y avait un âge clé autour de 13-14 ans. Les élèves arrivant avant 12 ans, 13 ans, globalement, s'en sortaient mieux. Il y avait plus d'orientation en filière générale, moins d'abandon, etc. Plus on montait en âge, plus ça avait un effet. Et alors ça, c'est quand même aussi un effet du fonctionnement du système scolaire, avec ses paliers en collège, ses paliers, sans doute encore plus aggravés dans le cas de la Suisse. Mais c'est sûr qu'on a quelques éléments de comparaison internationale, peut-être là plus généraux, mais là, sur les retards scolaires des élèves nés à l'étranger. La France n'est pas bien située par rapport à ça et par rapport à d'autres pays. Il y a beaucoup de retard scolaire pour des élèves. Alors là, la variable qui est prise en compte, c'est plutôt né à l'étranger qu'allophone.
Alors, pour terminer cette émission, j'ai juste une question un peu décalée, mais qui me paraît importante, c'est que comment faire en sorte que le personnel, en général, soit formé, acculturé sur ces questions de migration, d'histoire de l'immigration, l'enseignement de l'histoire de l'immigration, comme étant finalement un vecteur pour comprendre finalement les élèves qu'on accueille, qu'on scolarise, et qu'il y ait une prise de conscience aussi de la diversité des parcours, pour empêcher ces catégorisations un peu rigides et un peu fermées, qui font qu'on fait des raccourcis, migrants, pauvreté, déficitaire, quelque part. Est-ce qu'il n'y a pas un détour, peut-être utile, qui passerait par la pédagogie et par l'enseignement de ces questions-là, tout simplement ?
Alors, en termes de formation des enseignants, on a beaucoup de choses à améliorer. C'est très limité, hein, en France. Alors, on a, je dirais, un progrès qui est celui d'avoir une certification en français et langue étrangère qui, en principe, doit être obtenue par
les enseignants qui interviennent dans les UPE2A.
Mais tous les enseignants en UPE2A ne bénéficient pas de cette certification.
Je pensais plus aux autres, en fait,
aux enseignants
dits ordinaires.
Ah ben là, ce serait une intégration de ces questions-là dans la formation de base, des instituts de formation. Ponctuellement, il y a des heures, mais ce n'est pas du tout généralisé. Après, il y a plusieurs choses. Il y a ce que tu dis de la sensibilité à la question de l'immigration, de l'exil, de l'histoire. Et puis, il y a des choses très pratiques, je dirais, vraiment, qui relèvent de bah, qu'est-ce que c'est que d'apprendre le français quand sa langue d'origine, c'est, je ne sais pas, le tamoul, qui a une structure totalement différente. Moi, je parle du tamoul parce qu'il se trouve que j'avais fait des observations dans un collège où il y avait un contingent important d'élèves tamouls depuis plusieurs années en région parisienne. Et les enseignants constataient des difficultés pour ces élèves, mais ils ne s'étaient jamais formés sur ce que ça représente, comment est construite cette langue, si les erreurs qu'ils font sont liées à la langue, etc. Des choses très, très, très pratiques, en fait, mais qui sont absentes de la formation des enseignants.
Barbara Fouquet-Chopin.
Alors, il se trouve que la formation des enseignants à Genève se passe dans mon institution. Donc, ce que je peux dire, c'est que cette question-là, elle est dans le curricula prévu pour nos futurs enseignants. Il y a plusieurs choses, à mon avis. Il y a d'abord, évidemment, tu as raison, il y a des cours un peu généraux. D'ailleurs, le livre dont tu as parlé tout à l'heure, c'est un support de cours. Et donc, du coup, là, on va traiter de la question des inégalités liées à la migration, des inégalités ethno-raciales, de la discrimination, toutes ces questions-là. Mais par ailleurs, on a aussi des séminaires avec nos futurs enseignants. Et moi, dans le séminaire que j'anime, j'essaie de réfléchir pendant un semestre avec nos futurs enseignants à savoir en quoi cette catégorisation, elle est pertinente pour eux dans leur pratique. L'une des premières choses quand on leur demande est-ce que tu peux me décrire la classe dans laquelle tu fais un stage actuellement, l'une des premières choses qu'ils nous disent, c'est j'ai tant d'élèves, 10, nanana, et tant d'élèves, alors où ils disent allophones, où ils disent étrangers d'ailleurs, parce qu'en fait, les catégories sont très mélangées. Et donc du coup, à chaque fois, on essaie de leur dire, bon alors ok, en quoi c'est pertinent? Pourquoi tu nous dis que tu as tant d'élèves allophones? En quoi dans ta pratique c'est pertinent? Alors des fois, ça l'est. Effectivement, comme le dit Claire, ça l'est parce que c'est un élève qui arrive, qui a besoin d'un soutien particulier, mais des fois, ça ne l'est pas. Mmh. Et donc ça, c'est un premier versant, essayer de rendre conscient les étudiants des processus de catégorisation dans lesquels ils sont pris et dans lesquels on est tous pris. Mais c'est aussi leur amener effectivement des choses très concrètes. Alors moi, je ne suis pas didacticienne, donc je ne leur amène pas du tout de la didactique, mais il y a aussi des cours de didactique. Mais nous, on va plutôt réfléchir aux outils qui existent, des outils très concrets, comme par exemple, il y a très récemment en Suisse romande un kit d'accueil qui vient d'être fait, qui est très intéressant, qui peut être donné à l'ensemble des enseignants qu'on trouve en ligne et qui leur permet vraiment d'avoir accès à de la ressource, y compris des petites évaluations en mathématiques, en langue d'origine, etc. dans la classe. Donc, vraiment des choses très, très concrètes. Il y a aussi des choses qu'on appelle, par exemple, les sacs d'histoire, mm-hmm. qui permettent de valoriser
la langue d'origine, dans le récit,
voilà, le conte, etc. Oui. Et donc, ces séminaires, ils sont vraiment consacrés à ça. Je les amène aussi à réfléchir aux ressources qu'ils ont dans leur établissement. La direction est une ressource, la formation continue, etc., etc.
Merci, merci à toutes les deux, merci à Zoé également. Ça manque pas d'air, une émission de Régis Guyon. Elle a été préparée avec la collaboration donc de Zoé Vanarac, étudiante à l'Université de Lorraine, à la réalisation Sébastien Boudin, au mixage Laurent Gaillard de Réseau Canopée. Et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission et retrouvez ce podcast, comme tous ceux de Cadécole, sur le site de l'IFE de l'ENS de Lyon et sur toutes les bonnes plateformes de podcast.